Bien, donc dernière partie de ce cours qui va porter sur le test du QI2. Donc je vous rappelle, on a vu précédemment l'utilité hein, de l'outil statistique pour le sociologue, comment à partir d'une base de données, on pouvait mettre en œuvre de premières exploitations de ces données, donc des traitements assez simples sous forme de tri à plat, de tri croisé. L'idée, c'est évidemment de bien manier ces outils et donc de construire les bons indicateurs et surtout de savoir lire, analyser ces indicateurs, qu'il s'agisse de l'écart au pourcentage moyen ou de l'écart à l'indépendance, le dernier indicateur qu'on a vu. Alors, ces indicateurs révèlent des attractions, des oppositions, des situations d'indépendance entre les modalités des deux variables croisées lorsqu'on est donc dans un tableau de contingence. Maintenant, on va dans cette dernière partie voir finalement si ces liens qu'on révèle ou non sont significatifs, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut considérer qu'il y a une part de hasard dans des écarts à une situation stricte d'indépendance. On va repartir d'un petit exemple, une petite anecdote hein, assez ancienne. Donc c'est un article qui du Times, plusieurs d'ailleurs, ça a fait couler, ça a donné lieu à plusieurs articles à l'époque. Donc il y a eu à New York en 1966, une fameuse panne, la panne du siècle, hein, à partir de laquelle de toute une série de rumeurs s'est propagée et donc a été reprise par les médias, dont le New York Times. Donc l'idée là est que finalement, 9 mois après cette fameuse panne, des hôpitaux aurait constaté une hausse des naissances. Alors, est-ce que, la question, hein, est-ce que cette fameuse panne pourrait être à l'origine de cette hausse de naissances? On a, si vous reprenez, donc je vous ai mis un extrait donc d'un article, donc là en français, hein, repris par un démographe qui est Callot, mais vous pouvez lire aussi l'article de Oudry qui date des années 70, qui est là directement donc en anglais, qui vous donnera des éléments. On a des chercheurs, un sociologue qui arrive à commenter ce phénomène en disant finalement la lumière s'est éteinte et les gens ont été abandonnés à des interactions mutuelles. Donc il y a cette idée que plongés dans l'obscurité, hein, les individus seraient de nouveau en proie à des instincts naturels et qu'ils se seraient rapprochés, ce qui serait le facteur donc à l'origine de cette hausse des naissances. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, dans plusieurs maternités de New York, alors évidemment pas toutes, on voit qu'effectivement, dans l'une, la première, hein, dans le tableau que je vous ai indiqué, la première maternité, Mount Sinai, en moyenne, on a 11 naissances par jour. Et que le jour, donc 9 mois après la fameuse panne, donc qu'on estime vers le 8 août, bon, sachant évidemment que les naissances sont autour de cette date, mais on ne peut pas dire que tous sont nés pile 9 mois après. Hein. Donc le 8 août, il y aurait eu 28 naissances, soit un écart de plus 17 par rapport à la situation moyenne. Et donc, effectivement, là, une situation qui semble un petit peu exceptionnelle. Donc on imagine dans cette maternité, d'un seul coup, 2 fois plus, 3 fois plus de naissances que d'habitude, les médecins, les sages-femmes se questionnent, cherchent une explication à ce débordement d'une journée. appelle d'autres maternités, les contacte pour voir un peu ce qu'il en est chez eux. Et puis, selon les situations, selon qu'évidemment ils en ont plus ou moins, ils vont ne conserver que les cas où il y a une hausse, un écart positif. Et donc, on a comme ça, vous voyez, quelques autres maternités avec un écart positif. Mais dans l'ensemble, lorsqu'on est à un écart de 3 ou 4 naissances supplémentaires, bon, déjà, on peut se dire que ça reste dans une situation proche de la moyenne. La situation exceptionnelle, ici, ça semble juste être celle de la maternité du Mont-Sinaï. Alors, que dire? Est-ce que cette maternité, comment interpréter, comment analyser cette hausse qui apparaît spectaculaire? Est-ce que il est concevable, finalement, est-ce qu'il est concevable que cette hausse, cet écart bien plus important que la situation moyenne, que cet écart soit tout simplement dû au hasard? Parce que effectivement, si vous décidez de lancer 10 fois une pièce de monnaie sur la table et qu'elle se retourne toujours sur la même, du même côté, qu'elle tombe à chaque fois sur du côté face, vous allez vous dire qu'il y a un truc. Mais est-ce qu'il y a un truc? Ou est-ce que c'est possible, finalement? Est-ce que cette situation est envisageable, le fait de jeter une pièce et qu'elle tombe 10 fois du même côté? De même que, est-ce qu'il est envisageable que dans une maternité, on ait près du triple de naissances qu'on en a d'habitude? Oui, évidemment, c'est une situation qui est possible. Pour le cas des pièces, hein, d'une pièce de monnaie qu'on lancerait, qui tomberait 10 fois sur la même face, oui, la probabilité n'est que ça arrive, la probabilité que ça arrive n'est que d'une chance sur 1 000. Mais c'est possible. Une chance sur 1 000, c'est rare, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, il faut essayer à chaque fois de tester les résultats pour essayer d'en déduire finalement si l'écart à ce qui était attendu, l'écart par rapport à ce qui était attendu est quelque chose d'envisageable, ou si finalement donc ça dépend du hasard, ou si c'est une réelle signification et que donc ça mérite une interprétation, ça mérite une analyse, c'est quelque chose qui est sociologiquement, socialement intéressant. Là, évidemment, dans ce cas-là, si on met en œuvre des tests statistiques, on se rend compte qu'il s'agit tout simplement du hasard et que, bien évidemment, alors que ce soit la Lune ou la panne d'électricité, hein, la pleine Lune ou d'autres éléments, évidemment, c'est tout simplement dû au hasard et c'est un cas qui sort de l'ordinaire, certes, mais qui n'est pas pour autant significatif, voilà, qui ne mérite pas une interprétation autre que celle du hasard. Alors, pour mettre en œuvre ce calcul, de mener hein, ce raisonnement que l'on a pu faire comme ça sur le cas de l'hôpital, mais se demander, se poser la question à chaque fois, est-ce que les variations que j'observe, est-ce que finalement la situation qui semble s'écarter de ce qui était attendu, est-ce que cette variation, cette fluctuation est suffisamment importante, suffisamment forte pour que je puisse en déduire, pour que je puisse en conclure que ce n'est pas dû au hasard, mais que vraiment il y a une liaison, une incidence d'un élément sur l'autre. À partir de quel moment j'aurais pu dire, à partir de quel écart répété dans plusieurs maternités, j'aurais pu dire, oui, effectivement, la panne a eu comme conséquence une hausse des naissances. Et jusqu'à quel moment, jusqu'à quel écart, je peux considérer que non, finalement, il n'y a pas de différence significative par rapport avec une situation moyenne. Et donc, je ne peux pas considérer que c'est l'obscurité qui a donné lieu à cette hausse des naissances. Donc, c'est ça que l'on va. C'est ce test-là qu'on va maintenant, que je vais vous présenter, qu'on va mettre en œuvre pour donc tester la significativité, des liaisons, donc de variables, les modalités de deux variables, dans quelle mesure les liens observés sont-ils significatifs ou pas. Donc on reprend. Notre exemple que l'on a suivi pour les écarts à l'indépendance. Donc, je vous rappelle, on croise deux variables. L'une, l'orientation post-bac, hein, vers quelle voie se dirigent les étudiants, modalité université, classe préparatoire ou orientation professionnelle. Première variable, la dimension que je cherche à expliquer. Et donc en ligne, la deuxième variable avec les modalités littéraires, économiques, scientifiques et techniques. Donc c'est le type de baccalauréat obtenu. Et la question qu'on se pose ici, c'est dans quelle mesure est-ce que la série du bac, le bac obtenu, a une incidence sur l'orientation post-bac et les voies choisies après l'obtention du baccalauréat. Donc on était arrivé, le tableau que je vous présente ici, c'est le tableau des écarts à l'indépendance. D'accord? Donc on était arrivé au constat qu'il y a a priori une attraction entre le fait d'avoir un bac littéraire et le fait d'aller ensuite à l'université. Attraction, puisqu'on avait un écart positif de plus 4. D'accord? Autre exemple d'attraction, c'était le fait d'avoir un bac scientifique et d'aller ensuite vers une classe préparatoire. Là, on a une attraction puisqu'on a un écart de plus 2. Question, est-ce qu'on peut dire à partir de ces deux écarts, donc plus 4 d'un côté, plus 2 de l'autre, est-ce qu'on peut dire que l'attraction, la première attraction, le fait d'avoir un bac littéraire et d'aller à l'université, est-ce que l'on peut en déduire que cette attraction est plus forte que la seconde, c'est-à-dire avoir un bac scientifique et aller vers une classe préparatoire? Non. On ne peut pas en déduire à partir de nos écarts à l'indépendance, ça c'est très important, on ne peut pas en déduire une intensité des liens. L'écart à l'indépendance, comme l'écart au pourcentage moyen, nous donne à voir le sens des liaisons. D'accord? Est-ce que ce sont des liens positifs, des attractions? Est-ce que ce sont des liens négatifs, des oppositions? Ou est-ce qu'il y a donc absence de lien? Situation d'indépendance. Mais ces écarts bruts ne peuvent pas nous fournir des indications sur l'intensité, la force de ces liens, la force de ces attractions, la force de ces oppositions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que finalement, cet écart brut, il faut à chaque fois se demander, pour savoir si cet écart est important ou non, et il faut savoir par rapport à quoi. Je m'explique. Donc, dire qu'il y a un écart de plus 4, d'accord, écart positif, hein, donc attraction plus 4 pour les étudiants qui sont inscrits, qui avaient un bac littéraire, qui vont à l'université, il y a un écart de plus 4. Mais c'est élevé par rapport à quoi? Qu'est-ce qui était attendu? C'est la question qu'on doit se poser pour savoir si cet écart est important ou pas. Il faut calculer ce que l'on appelle un écart relatif, c'est-à-dire il faut avoir en tête une situation, un critère de référence et savoir fort ou élevé par rapport à quoi. Là, la situation attendue, c'est notre effectif théorique. Ce qui était attendu en cas d'indépendance, c'est 10. On devrait avoir 10 étudiants qui viennent avec leur bac littéraire à l'université. On en a obtenu 4 de plus, 4 par rapport à 10. Parmi ceux qui ont un bac scientifique et qui s'orientent en prépa, on en attendait 3. On en a eu 2 de plus, 2 étudiants en plus par rapport aux 3 attendus. D'accord? Donc, vous comprenez bien que le 4 par rapport au 10 attendu n'a pas la même valeur que le 2 par rapport au 3. Lorsqu'on calcule ce que l'on va appeler un coefficient de pondération, c'est-à-dire lorsque l'on essaye de relativiser cet écart par rapport à ce qui était attendu, on obtient donc 4 divisé par 10, un écart de plus 4 par rapport aux 10 attendus, ça nous donne un coefficient de 0,4. Et pour les étudiants qui ont un bac scientifique et qui vont en prépa, on a un écart donc plus 2 par rapport à plus par rapport aux 3 étudiants attendus. Donc ça nous fait 2 divisé par 3. On a un coefficient donc de 0,66. Donc vous voyez là que le second écart est plus important, hein, le coefficient de pondération 0,66 par rapport à 0,4, ce second écart est relativement plus important et il va nous aider, nous permettre ensuite de calculer ce que l'on va appeler un écart pondéré qui est donc la base pour calculer notre fameux indicateur du QI2. Donc, pour pouvoir dire quelque chose de l'intensité de la liaison et pour pouvoir comparer nos différents écarts, il faut donc les rapporter à l'effectif théorique, pardon. Il faut les rapporter à l'effectif théorique et en déduire ce que l'on appelle des écarts pondérés. Des écarts pondérés qui vont nuancer ou au contraire qui vont accentuer, renforcer les écarts non pondérés. Donc on poursuit le raisonnement, on avait un écart brut dans le premier cas, hein, des littéraires qui vont à l'université, on avait un écart brut de plus 4. Si on rapporte, on multiplie cet écart brut par le coefficient de pondération qu'on a trouvé, donc 0,4, donc si on fait 4 multiplié par 0,4, on obtient un écart pondéré qui est de 1,6. Dans le second cas, on avait un écart brut qui est de plus 2. On a calculé un coefficient de pondération donc, qui est de 0,66, donc notre 2 divisé par 3. Hein. Et donc, on obtient cette fois-ci un écart pondéré qui est de 1,33. Donc, vous voyez que si on regarde par rapport aux écarts bruts, on avait plus 4 d'un côté, plus 2 de l'autre. On avait l'impression qu'on passait du simple au double, hein, de plus 2 à plus 4. Et à partir de nos écarts pondérés, on est cette fois-ci avec des écarts qui sont respectivement de 1,6 et de 1,33. Donc on a nuancer ces deux écarts bruts et on se rend compte finalement qu'il n'y a pas une grande différence dans le lien, dans la force du lien entre ceux qui viennent d'un bac littéraire et qui vont à l'université et ceux qui viennent d'un bac scientifique et qui vont en prépa. Donc on peut comme ça calculer l'ensemble des contributions au QI 2. Donc les contributions au QI 2, ce sont nos écarts, les écarts pondérés de chaque case. Donc comme pour ces deux exemples, on peut, et je vous laisse faire les calculs et vous entraîner de votre côté, on peut donc reconstituer le tableau dans son intégralité et à partir donc de la somme des marges, des situations marginales, on obtient ce que l'on appelle le QI 2 global du tableau. D'accord? Donc à partir de la somme des contributions, de la somme des écarts pondérés calculés, on va obtenir le QI 2 global du tableau. Le QI 2 global du tableau, ici, est de 29,58. Alors, on peut reprendre, hein, formaliser un peu ce que l'on vient de voir. Donc, contribution au QI 2 ou écart pondéré. Hein. On l'a obtenu en faisant l'écart brut, l'écart à l'indépendance brut, multiplié par un coefficient de pondération. Donc, on pondère notre écart brut pour avoir un écart relatif. Qu'est-ce que c'est que cette pondération? Donc cette pondération, on l'a vu, c'est l'écart divisé, rapporté, comparé à l'effectif théorique, donc l'écart sur l'effectif théorique. Donc là, donc je suis à la deuxième ligne, hein, contribution au QI 2, on peut dire aussi que c'est l'écart multiplié par l'écart divisé par l'effectif théorique. D'accord? Je continue. Ça nous donne l'écart, là je peux retirer, si vous vous souvenez, vos cours du collège sans doute, je peux, lorsqu'il s'agit de multiplication ou de division, retirer les parenthèses qui ne servent à rien dans ce cas-là. Donc il s'agit de l'écart multiplié par l'écart sur l'effectif théorique. L'écart multiplié par l'écart, c'est l'écart au carré, quatrième ligne. L'écart au carré sur l'effectif théorique. Et enfin, l'écart au carré sur l'effectif théorique, c'est l'écart, on sait que c'est effectif observé moins effectif théorique. C'est ça l'écart à l'indépendance, le calcul de l'écart à l'indépendance, on l'a vu précédemment. Donc, effectif observé moins effectif théorique au carré divisé par l'effectif théorique. Voilà, donc là, je vous donne hein, les différentes formules, façons de calculer cet écart pondéré, ces contributions au QI 2. À vous, selon les informations que vous détenez, vous avez l'écart di directement, vous avez les effectifs observés, vous avez les effectifs théoriques. À vous de voir quel est... Selon les exercices, la situation dans laquelle vous êtes, quelle est la ligne vous permet de calculer donc votre contribution au QI 2 et essayez évidemment de prendre la ligne qui vous permet de faire le moins de calculs. D'accord? Si vous avez, en général, par exemple, les deux dernières lignes sont les lignes qu'on utilise le plus, à savoir écart au carré sur effectif théorique, c'est relativement facile et rapide à appliquer. Par contre, si vous n'avez pas l'écart, eh ben vous repartez de la dernière ligne, observé moins théorique au carré sur théorique. Voilà, ça c'est des petites gymnastiques. Il faut, par l'entraînement, hein, que vous compreniez toujours hein, le déroulement que je viens de vous présenter. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce qui deux? Hein, vous voyez la logique et ensuite essayer d'être efficace, c'est-à-dire de ne pas vous perdre dans donc les lignes possibles de calcul, essayer de prendre la bonne et la plus celle qui vous permet d'obtenir le résultat le plus rapidement possible. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce Q2 global obtenu, donc 29,58? Est-ce qu'il y a un moyen d'interpréter ce résultat? Qu'est-ce qu'on en dit? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Encore une fois, pour l'instant, on est un peu perplexe. Alors, évidemment, ce Q2 global, on va pouvoir l'interpréter et on va pouvoir en déduire donc une significativité des liaisons ou non. Donc dire si effectivement il y a un écart significatif, si les attractions, les oppositions qu'on a pu observer à partir de notre tableau des écarts à l'indépendance, par exemple, si ces écarts-là méritent une analyse hein, sociologique, ou si bon, finalement ils sont dus uniquement à des fluctuations d'échantillonnage et que ils restent assez proches de la situation d'indépendance, et donc on ne peut pas dire autre chose que qu'ils sont dus au hasard. Donc pour savoir si le Q2 global nous permet d'interpréter nos résultats et donc nous permet d'en conclure qu'il y a un lien significatif entre les deux variables croisées, on va se servir de ce que l'on appelle une table du Q2, ou on peut l'appeler du nom de son concepteur, une table de Carl Pearson. Et à partir de cette table, on va tester la significativité de nos résultats. Alors, pour lire cette table, donc il s'agit hein, d'un test d'indépendance qui suit une loi normale, donc c'est un test de probabilité. On a besoin d'avoir deux informations pour pouvoir lire correctement cette table. Si vous regardez votre table, on a besoin de savoir quel est le degré, ce que l'on appelle le degré de liberté du tableau. Et on a besoin de connaître une deuxième information qui est le seuil critique choisi, c'est-à-dire la marge d'erreur acceptable. Alors, deuxième, pour qu'est-ce que ça signifie la marge d'erreur acceptable? Dès l'instant où on travaille sur un échantillon, dès l'instant où on ne travaille pas sur une population exhaustive, il y a toujours un risque d'erreur. D'accord? Même avec notre test de probabilité, on ne peut pas être sûr à 100% de notre résultat, et donc on ne peut pas être sûr à 100% que le lien est vraiment significatif. Mais on peut essayer de s'assurer de la fiabilité de nos résultats à 99, à 95 ou à 90%. D'accord? Ça, on va y revenir. Donc, première information dont on a besoin, je vous ai dit, c'est le degré de liberté du tableau. Qu'est-ce que c'est? Le degré de liberté du tableau, c'est le nombre de cases qu'il faut connaître pour pouvoir en déduire le nombre de cases restantes. D'accord? Donc, ce degré de liberté du tableau, on l'obtient, il bouge en fonction de la taille de notre tableau. Donc, plus on a un nombre important de modalités, plus on va avoir un degré de liberté du tableau qui sera important, qui sera élevé. OK? Donc, on obtient ce degré de liberté en faisant tout simplement, en regardant le nombre de modalités ligne et le nombre de modalités colonne, et à chaque fois en retranchant 1. Donc, dans le tableau, là, sur lequel on a effectué l'exemple. Donc, première variable, les orientations, on a trois modalités, université, classe prépa, orientation professionnelle. Donc, on va faire 3 moins 1. Et Pour notre deuxième variable, hein, série du bac, on a quatre modalités, littéraire, économique, scientifique, technique, quatre modalités auxquelles on retranche un, ça nous fait 3. Donc 3 moins 1 multiplié par 4 moins 1, 2 fois 3, 6. On a tout simplement ici un degré de liberté du tableau qui est de 6. D'accord? Donc je vous rappelle, hein, très, très important, hein, erreur bête que l'on peut commettre, c'est d'inclure dans les modalités la marge, le total. Donc évidemment, quand on compte les colonnes et les lignes de notre tableau, on ne prend pas en compte la situation marginale, on ne prend pas en compte le total. Donc ça, c'est le degré de liberté de mon tableau. À partir de ce degré de liberté du tableau, je vais pouvoir lire la table du qui-deux. Donc à gauche, donc dans cette table du qui-deux, vous voyez première colonne de gauche, degré de liberté. Degré de liberté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça va évidemment jusqu'à un degré de liberté très élevé. Donc là, je vous ai dit, notre degré de liberté, il est de 6. Donc on s'arrête à la sixième ligne et on lit donc les différentes valeurs critiques à la ligne 6. Donc pour un seuil de 10%, donc avec une marge d'erreur de 10%, on a une valeur critique qui est de 10,6. Pour un seuil de 5%, donc avec une marge d'erreur de 5%, c'est-à-dire une fiabilité de 95%, on a une valeur de 12,6. Et enfin, dans ma table du QI2, pour un niveau de fiabilité de 99%, donc marge d'erreur restante 1%, on a une valeur qui est de 16,8. Alors, on va tout simplement effectuer le test du QI2. C'est un test où on va rejeter, infirmer ou confirmer l'indépendance. On dit que c'est un test d'indépendance. Cette table du QI2 me permet de formuler un test d'indépendance. On part d'une hypothèse qu'on va dire H0. Qui est l'hypothèse d'indépendance? Si cette hypothèse est vérifiée, ça veut dire que mon QI2 global, là, mon QI2 global, je vous rappelle, il est de 29,58, mon QI2 global n'est pas significatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment éloigné de zéro pour que j'en déduise un lien significatif entre mes deux variables. Okay? Donc, il va falloir, dans ce test d'indépendance, donc soit mon QI2 ne dépasse pas une certaine valeur, et dans ce cas-là, je vais accepter l'hypothèse d'indépendance, soit au contraire, mon QI2 dépasse, c'est l'hypothèse alternative, celle que on va appeler H1, soit au contraire, mon QI2, l'écart global observé, est supérieur à la valeur critique, donc qui se trouve dans la table du QI2. Et si mon QI2 est supérieur à cette valeur critique, alors je vais accepter le lien de dépendance, je vais rejeter l'hypothèse d'indépendance et je vais en conclure qu'il y a un lien significatif entre mes deux variables. Donc, deux situations possibles. Hein. Je regarde dans ma table du QI2 les différentes valeurs, 10,6, 12,6, 16,8, et je les compare à mon QI2 global obtenu, à savoir 29,58. Et ici, donc 29,58 est supérieur à 10,6. Il est supérieur à 12,6 et il est également supérieur à 16,8. Donc, 29,58 supérieur à 16,8, que se passe-t-il? On est au-delà de la zone d'acceptation de l'indépendance. Je rejette l'hypothèse d'indépendance. J'accepte le lien. J'accepte qu'il y a un lien significatif entre les deux variables croisées. Et je peux donc en déduire que cette valeur 29,58, c'est-à-dire les écarts cumulés, ne sont pas dus aux fluctuations de mon échantillon, mais que là, on est suffisamment éloigné de zéro pour dire que oui, il y a bien quelque chose, il y a bien des écarts significatifs, et oui, ça mérite qu'on les interprète. Alors, première chose, une question que vous pouvez vous poser, c'est quelle seuil je choisis? 10%, 5%, 1%. Dans l'idéal, on va prendre le seuil de fiabilité le plus élevé, à savoir le risque d'erreur de 1% et une fiabilité de 99%. Là, c'est le cas, 29,58 est supérieur à 16,8. Donc, si je peux dire, et je peux le dire, qu'il y a bien un lien significatif entre les deux variables et que je suis assurée de ce lien à 99%, c'est toujours mieux que de dire que je suis assurée de ce lien à 95 ou à 90%. Je vous dis ça parce que souvent dans les publications, dans les articles scientifiques, la norme est d'avoir un seuil de 5%. Donc 95% de fiabilité, c'est un peu ce qui est exigé. Il faut peut-être nuancer un peu ce fait et se dire que finalement, si on est entre 90 et 95%, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. C'est sans doute qu'il y a des résultats intéressants à creuser. Et ce n'est pas parce qu'on a un seuil de fiabilité, par exemple, si notre résultat, notre Q2 global, là, avait été de 11, on aurait été un peu embêté. Hein. C'est supérieur à 10,6, c'est inférieur à 12,6. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que mes résultats sont significatifs, mais qu'il y a une marge d'erreur qui reste de 10%. Est-ce qu'on va en déduire qu'il n'y a pas de significativité? Non. Si je vous assure à 90% que vous allez obtenir votre diplôme, oh, c'est pas rien. Donc, il faut creuser. Et ça, c'est très important. Il faut à chaque fois essayer de comprendre. Qu'est-ce qui fait finalement qu'on n'est pas si éloigné que ça de zéro? Est-ce que c'est parce qu'on a un petit échantillon? Donc le test du Q2 est dépendant de la taille de l'échantillon. Plus vous avez un échantillon élevé, plus vous allez avoir un Q2 global élevé. Il est proportionnellement élevé, et on verra d'ailleurs au second semestre. Que pour neutraliser cet effet de la taille de l'échantillon, on utilise un autre indicateur, le cousin du Q2, qui est le Phi2. Pour neutraliser, pour quand on calcule donc le test, quand on calcule notre Q2 global, il y a l'incidence de la taille de l'échantillon. Donc, plus on a un échantillon important, plus on est assuré d'avoir un Q2 significatif. D'accord? Donc peut-être que nos résultats ne sont significatifs qu'au seuil de 10%, peut-être qu'on a une fiabilité qui n'est que de 90% parce qu'on travaille sur un petit échantillon. Alors oui, nos résultats sont à nuancer, oui, il aurait fallu un échantillon plus conséquent, mais déjà ça veut dire quelque chose. D'accord? Ça c'est la premier élément. Et deuxième chose, je vous l'ai dit, les fluctuations de l'échantillon augmentent avec le degré de liberté du tableau. D'accord? C'est pour ça que lorsqu'on a, plus on a un degré de liberté important, plus il va falloir s'éloigner de zéro pour rejeter l'hypothèse d'indépendance, accepter le fait qu'il y a une dépendance entre les deux variables. Quand on a donc un quid global qui est proche du seuil de 10%, c'est peut-être qu'on a un tableau qui a trop de modalités. Et donc, plus on a de modalités, plus effectivement, il va falloir avoir un seuil, une valeur critique élevée. Donc, si on voit, on va le tester d'ailleurs, cette information-là dans la dernière partie, là, dans les pièges du quid 2, si on voit qu'on a un quid 2 avec beaucoup de modalités, parfois pour certaines modalités, des effectifs pas très élevés, peut-être qu'il faut réfléchir à regrouper certaines modalités. Et donc, on aura un degré de liberté qui va diminuer, on aura un seuil à atteindre qui sera, une valeur critique à atteindre qui sera moins élevée et qui nous permettra peut-être d'avoir des résultats plus significatifs. Voilà, donc ce que je vous dis là, ce que vous devez retenir, c'est que dans tous les cas, c'est un outil et que c'est à vous de réfléchir. C'est à vous de manier correctement cet outil et pas juste dire ah bah là je suis à 10%, c'est pas significatif, c'est significatif. Non, réfléchissez un minimum, confrontez ce test à votre tableau, à ce que vous croisez, et évidemment c'est pas le test hein, qui va vous permettre d'analyser vos résultats. Il faut que vous quand même vous posiez les bonnes questions et que vous réfléchissiez à la validité, vous aussi, de ce que vous croisez. Donc, au final, je reviens à notre exemple, hein, 29,58, le quid 2 global du tableau, là, donc la somme des écarts pondérés, 29,58, c'est bien supérieur à 16,8. Je rejette l'hypothèse d'indépendance, je vous ai dit, j'accepte la dépendance entre les deux variables croisées. Et j'en conclus qu'il y a bien un lien significatif entre le parcours scolaire et le type de bac obtenu. Donc, lien significatif entre les différentes modalités. Ça signifie que je peux interpréter les résultats, je peux interpréter les attractions, les oppositions, essayer de les expliquer, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que. Finalement, ceux qui ont un bac scientifique vont davantage en classe prépa que ceux qui ont un bac littéraire vont davantage à l'université. Voilà. Comment comprendre ce phénomène? J'ai testé la significativité de mon tableau. Je peux aller plus loin dans l'analyse de mes résultats. Si j'avais mis en avant le fait que la liaison n'était pas significative, donc si j'avais eu un quid 2 global inférieur à 10, et je n'aurais pas pu aller plus loin dans l'analyse de mes résultats. D'accord? Vous ne pouvez pas dire j'accepte l'hypothèse d'indépendance et ensuite dire ah ben, il y a une attraction entre telle modalité et telle modalité. D'accord? Dès l'instant où j'ai dit j'accepte l'hypothèse d'indépendance, ça veut dire je considère que les écarts que j'ai révélés avant sont finalement dus à la fluctuation de mon échantillon, sont dus au hasard et donc ne méritent pas d'être interprétés au sens ne méritent pas qu'on s'attarde sur ces attractions et ces oppositions. En même temps, dire il n'y a pas de lien significatif a priori, il n'y a pas de lien significatif entre telle variable et telle variable, c'est aussi un résultat. Si je dis bah non, finalement, le sexe n'a pas d'incidence sur le parcours choisi, c'est un résultat fort. D'accord? Donc, révéler une indépendance, accepter l'hypothèse d'indépendance, ça peut en soi être un résultat intéressant. Mais ça signifie dans tous les cas que je ne peux pas aller plus loin et interpréter, chercher à interpréter des attractions ou des oppositions. Donc, je vous disais, dernière information, hein, dernier élément, je vous disais, lorsque on manie cette table du qui 2, lorsque on a affaire à ce test, il faut prendre certaines précautions. Donc là, je vous ai mis un nouvel exemple qui est un tableau qui répond à la question: quand vous étiez enfant, vos parents pratiquaient-ils une religion? Donc là, tableau des effectifs observés, j'ai 1530 individus interrogés. La variable que je cherche à expliquer, c'est la pratique religieuse des parents pendant l'enfance. Donc le répondant égo. Deuxième variable, deuxième variable qui va être ma variable explicative, c'est est-ce que égo est un homme ou une femme? Et donc la question sous-jacente qu'il y a dans le croisement de ces deux variables, pratique religieuse des parents, sexe d'égo, la question sous-jacente, c'est est-ce que le sexe a une incidence sur la pratique religieuse des parents pendant l'enfance, donc d'égo? Bon, on peut avoir déjà une petite idée, une petite intuition de la réponse. Est-ce que le fait d'être un homme ou une femme, un enfant, d'accord, garçon ou fille, influe la pratique religieuse de ses parents. Donc, on procède, déroulement, hein, des différentes étapes ici rapidement, on procède aux effectifs théoriques, au calcul des effectifs théoriques. Donc, les marges, vous voyez, les marges de mon tableau restent inchangées. J'ai fait le calcul produit des marges sur total. À partir de ces deux informations, tableau des effectifs observés, tableau des effectifs théoriques, j'ai directement calculé le tableau des contributions au QI 2. Donc, je ne suis pas passée par l'étape du tableau des écarts à l'indépendance. Donc là, hop, vous devez avoir en tête quelle est la ligne pour le calcul des contributions au QI 2 qui a été utilisée, à savoir donc ici, effectif pour chaque case. Effectif observé moins effectif théorique au carré divisé par effectif théorique. Et ça me permet donc d'avoir mon tableau des contributions au QI 2, case par case. Alors, j'ai un QI 2 global dans ce tableau qui est de 58,9. Pour savoir si le QI 2 global du tableau est significatif ou pas, j'ai besoin, comme information principale, de savoir le degré de liberté de ce tableau. Degré de liberté de ce tableau, six modalités d'un côté pour donc la pratique, la variable pratique religieuse, donc père et mère qui pratiquent, uniquement le père, uniquement la mère, ni l'un ni l'autre. L'enfant se déclare orphelin et enfin, dernière modalité, non-réponse. Donc, six modalités d'un côté, trois de l'autre, puisque on a pour la variable sexe, on a 726 hommes qui ont répondu, 803 femmes qui ont répondu et il y a dans notre questionnaire une personne qui n'a pas donné, qui n'a pas fourni d'indication, qui n'a pas donc coché de case ni homme ni femme, et donc on est obligé là de mettre non-réponse puisqu'on n'a pas l'information. Donc une non-réponse pour le sexe. Du coup, degré de liberté de mon tableau, 6 moins 1 multiplié par 3 moins 1, ça nous fait un degré de liberté de 10. Donc je compare. Là, je retourne dans ma table du QI 2. Degré de liberté 10 du tableau. Je regarde aux différents seuils ce qu'il en est. Donc 58,9 par rapport aux différents seuils, 10%, 5%, 1%. Et je vois que mon 58,9 est supérieur au 23,2, donc valeur critique à dépasser, donc valeur critique avec le risque d'erreur le plus faible, 1%. Donc, a priori, mon Ki2 global dépasse la valeur critique au seuil de 1%. Donc, a priori, est-ce qu'il y a un lien entre mes deux variables? La table du Ki2 me laisse penser que oui. D'accord? 58,9, c'est bien supérieur à 23,2. Il y aurait un lien significatif entre la pratique religieuse des parents et le sexe d'ego. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, votre première faculté, votre première, la première nécessité, c'est de réfléchir. Et quand même là, de s'interroger sur cette liaison. Dans quelle mesure, qu'est-ce qui pourrait faire que le sexe d'ego influence la pratique religieuse de ses parents? Il semble quand même qu'il y ait un petit souci. Si on regarde plus en détail mon tableau, qu'est-ce que je vois? Je vois que sur les 58,9 Ki2 global de mon tableau, j'ai une valeur qui explique en grande partie hein, le résultat final, c'est le croisement de la non-réponse du sexe d'ego avec la non-réponse de la pratique religieuse des parents, puisque j'ai là une valeur, une contribution au Ki2 qui est de 56,9. Ça veut dire une contribution qui fait quasiment tout, quoi, qui explique quasiment la totalité du total. À quoi est due cette contribution très élevée? Elle est due à l'effectif théorique qui est très faible. D'accord? Un effectif théorique très faible va donner lieu à une contribution au Ki2 très élevée. Donc là, il faut, ça nous invite hein, à être prudent quand on manie ce test et quand on manie les effectifs théoriques en particulier, et à toujours vérifier la taille de ces effectifs théoriques. Dans l'idéal, on essaye de ne pas avoir des effectifs théoriques inférieurs à 5. OK? Et évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut, quand on interroge 1530 individus, conserver une modalité non-réponse sur le sexe où on a seulement un individu, on peut se dire que ce n'est pas très pertinent. Et donc, là, en l'occurrence, on ne peut pas regrouper cette non-réponse. En la mettant, en disant bah, finalement c'est une femme ou finalement c'est un homme, on ne peut pas trancher. Donc on va tout simplement la retirer de notre population interrogée. Et on va décider qu'on ne travaille pas sur 1530 individus, mais tout simplement sur 1529. Parce que cette non-réponse ne nous apporte rien et qu'elle n'a fait qu'accroître le degré de liberté du tableau. D'accord? Et qu'en plus, elle biaise mon test final. Donc, je retire cette non-réponse. J'ai 1529 individus interrogés, un degré de liberté de mon tableau un peu moindre. Et là, tout de suite, vous allez voir on a un Ki2 global qui est proche de 1. Et évidemment, on peut en déduire qu'il n'y a pas, que l'on accepte l'hypothèse d'indépendance, qu'il n'y a pas de lien significatif entre la pratique religieuse des parents et le sexe de l'individu interrogé. Voilà. Donc, au final, on en restera là hein, pour ce cours. ce qui m'importe, hein, ce que vous devez retenir, c'est que la statistique est un outil précieux pour le sociologue. On ne peut pas faire l'impasse et se dire, je vais me contenter d'analyser des données qualitatives, parce que vraiment, c'est faire l'impasse sur tout un pan de la sociologie. Hein. Vous remontez aux travaux de Durkheim, de Quetelet, voilà, de nombreux sociologues qui, aujourd'hui, des auteurs comme des chercheurs comme Baudelot, Establet et d'autres qui sont des auteurs incontournables. Donc vous devez vous aussi être en mesure de choisir votre recueil de données, de choisir votre méthode d'analyse des données en fonction de votre questionnement et non pas en fonction de vos compétences a priori. Okay. Donc la statistique est un outil précieux, mais c'est un outil qu'il faut savoir manier. Donc toujours être vigilant par rapport à l'origine de ces données, toujours avoir un regard critique sur comment elles ont été produites, qui les a produites, comment elles sont construites, d'accord? Ne jamais oublier que les données ne sont pas données, qu'elles sont construites, et donc qu'il y aurait sans doute d'autres façons de les construire, que ce n'est qu'un chiffre parmi d'autres possibles. Ensuite, donc, avoir en tête que l'on peut faire dire beaucoup à partir d'une base de données, à partir de données recueillies, de données quantitatives recueillies. On peut faire dire beaucoup à partir de tableaux, d'indicateurs simples. Il ne faut pas chercher à faire compliqué. Il ne faut pas chercher à abreuver votre lecteur de chiffres. Les bons chiffres, bien analysés, on sait d'où ils viennent. Et donc, ça nécessite évidemment de votre part de comprendre. Ça, c'est vraiment essentiel. Vous ne pouvez pas mobiliser des indicateurs, vous ne pouvez pas utiliser des chiffres sans comprendre comment, encore une fois, ils ont été produits et aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un écart au pourcentage moyen? Ça veut dire quoi un écart à l'indépendance? Ça veut dire quoi un test du QI2? Vous devez non pas juste appliquer, hein, mais vraiment chercher à comprendre ces indicateurs, pour les utiliser à bon escient. Et enfin, évidemment, dernier élément, ne pas oublier que ça reste des outils et que celui qui réfléchit, c'est vous. Celui qui manie ces chiffres avec prudence, c'est vous. Et que il faut toujours, je préfère dans vos examens, dans vos rendus de devoirs, je préfère que vous me disiez là, ce chiffre-là me semble invraisemblable, incohérent, j'ai dû commettre une erreur. Ça, on a le droit de se tromper, de ne pas savoir manier, mais être conscient que là, ça ne semble pas tout à fait vraisemblable, plutôt que d'essayer coûte que coûte de le commenter, de l'analyser, d'accord? Donc ne jamais oublier que c'est vous qui réfléchissez, c'est vous qui devez quand même du début à la fin savoir de quoi vous parlez et est-ce que c'est plausible ou pas.